En tant que chrétien, on n'a pas fini d'en voir des choses qui peuvent comme nous sortir un peu de notre zone de confort. Parce que c'est inhabituel, ça met un petit stress intérieur, un petit énervement, parce que c'est au-delà de notre contrôle. Ceux qui vivent dans les hôpitaux sont habitués, ils en voient à tous les jours. Nous autres, c'est une fois de temps en temps qu'on voit quelqu'un qui est malade. Il y a des choses habituelles qui nous arrivent quand quelqu'un a un mal de tête. On s'énerve pas comme ça, mais il y a mal pareil. Puis on n'est pas dérangé par quand quelqu'un a mal de tête parce qu'il reste les deux pieds bien droits, là, puis il a juste mal à la tête. Mais quelqu'un qui est malade d'une autre maladie, il y a des réactions, ça énerve. Parce que c'est inhabituel. Mais en réalité, c'est tout pareil devant Dieu, peu importe la maladie. Que tu aies une jambe plus courte, que tu aies un problème d'électricité, c'est une maladie, puis Dieu peut guérir n'importe quelle maladie. Parce que quand Jésus passait, il guérissait toute maladie et toute infirmité. Puis quand c'est un esprit, il chassait l'esprit. Mais quand il y a des cas comme ça, c'est prouvé médicalement qu'il y a un problème d'électricité, c'est une maladie, c'est un problème dans le fonctionnement du cerveau. C'est pas nécessairement des esprits à tous les fois qu'on voit quelqu'un tomber à terre. Les esprits, quand ils saisissent une personne puis ils tombent à terre, il y a des réactions, il y a des paroles de l'esprit qui parlent puis qui manifestent sa présence. Mais quand c'est une maladie, il n'y a pas de manifestation d'esprit, c'est juste une maladie, un dysfonctionnement. Le système est là, il a besoin d'une guérison. Puis aujourd'hui, le sujet que je vais parler touche à ça. C'est le Seigneur qui fait ça dans le but de stimuler notre foi. Parce que Dieu veut qu'on apprenne à marcher par la foi. Puis quand on marche par la foi, c'est pas marcher par la vue. Marcher par la vue, c'est je vois des choses, je fais des choses parce que je vois. Mais marcher par la foi, c'est d'avancer dans un monde inconnu. C'est d'avancer en ayant les yeux sur quelque chose qu'on ne voit pas à nos yeux. C'est ça qu'il faut apprendre à fonctionner en tant que chrétien, à marcher face au monde invisible, à la présence de Dieu, à la parole de Dieu. Prions. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus que je te prie de bénir cette réunion par ta présence, par ta puissance, par ton onction, mais aussi par ta parole. On a besoin de comprendre les choses spirituelles, Seigneur, puis en tant que chrétien, on a à apprendre à marcher en tant que chrétien, pour qu'on réagisse, qu'on agisse comme tu t'attends de nous, Seigneur. Fait qu'on remet nos ventres à tes mains, parle à nos cœurs par ta parole. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Le sujet aujourd'hui, c'est marcher par la foi. Depuis le début de la création, Dieu a un plan de sauver les gens par la foi. Pas juste à partir de Jésus, depuis le début de la création. Dans Genèse, au chapitre 4, le verset 26, « Depuis le début de la création, Dieu a l'intention de se révéler aux humains et de sauver les gens par la foi. » Adam et Ève, quand ils sont venus au monde, quand ils ont été créés, ben, ils ont vu Dieu, ils ont parlé avec Dieu, ils avaient une relation avec Dieu. Quand ils ont péché, ils ont été chassés du paradis terrestre. Ils ont été chassés de la présence de Dieu. Il y a eu comme une séparation parce que le jour qu'ils en ont mangé, ils sont morts. La connexion s'est défaite entre eux et Dieu. Puis là, ils ont été mis dans un endroit à part, chassés de la présence de Dieu, chassés du paradis terrestre. Puis ils ont appris à vivre en fonctionnant de leur force, en n'étant plus en communion avec Dieu. Jusqu'à là, c'était pas si mal. Les deux premiers qui viennent au monde, Caïn et Abel, il y en a un qui tue l'autre. Puis là, l'enchaînement de ça, Adam, il y a eu un autre fils qui s'appelait Seth. Puis là, il y a eu d'autres descendances. Là, ils ont eu 3, 4, 5 générations. Les gens marchaient dans la vie sans connaître Dieu. Ils connaissaient Dieu seulement dans ce que Adam et Ève ont pu leur dire, mais les gens ne connaissaient pas Dieu, ne connaissaient pas le plan de Dieu, puis ils vivaient comme séparés de Dieu. La communion qu'il y avait dans le paradis, là, ils l'avaient plus. Adam et Ève ont été séparés, puis ont été jetés dehors. Fait que l'ensemble de l'humanité a commencé à vivre séparés. ont commencé à vivre comme des individus qui marchent individuellement à leur manière de penser, puis ça l'enchaînait que l'un que tue l'autre. Là, Dieu a essayé d'intervenir pour leur dire, puis, mais finalement, il y a eu des descendances, 500-600 ans plus tard, il y a eu quelqu'un qui est venu au monde qui s'appelait Seth, lui aussi un fils qui est du nom d'Enoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est à peu près 600-700 ans après qu'Adam et Ève aient vécu, il y a eu 5-6 générations, là. 600-700 ans, il y a une personne qui s'appelait Enoch, puis Enoch, lui, a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Il a commencé à parler à Dieu, puis à prier Dieu, puis à chercher Dieu, à chercher à connaître Dieu, puis à chercher à être en contact avec Dieu. Il a cherché à marcher avec Dieu sur la terre. Puis ça, ça plaisait. Il commençait à invoquer le nom de l'Éternel. Ça plaisait à Dieu qu'il y ait quelqu'un commence à s'intéresser à Dieu. Hey, 500-600 ans plus tard qu'Adam et Ève aient connu Dieu, il y en a un qui a décidé, mais peut-être que je pourrais parler à Dieu. Il a commencé à parler à Dieu, puis ça l'a plu avec Dieu. Puis ce personnage-là a marché pendant 300 ans avec Dieu. Ça a tellement plu à Dieu que Dieu a enlevé cette personne-là puis l'a emmené avec lui. Cette personne-là a été enlevée par Dieu, puis Dieu l'a emmenée avec lui. Là, on regarde la continuité de l'histoire en continuant dans Genèse. Il y a un personnage qui s'appelait Abraham. C'était la même chose pour Abraham. Abraham, Genèse 15, le verset 6, il a eu confiance en Dieu. Là, Dieu a parlé à Abraham, puis Abraham, il a mis sa foi, il a mis sa confiance en Dieu. Il a commencé à écouter, oui, c'est vrai, Seigneur, puis je crois qu'est-ce que tu es en train de me dire, puis je le veux ce que tu es en train de me dire. Puis Abraham a commencé à obéir à Dieu. Il y a un autre verset qui nous dit d'Abraham, qu'Abraham était fidèle dans tout ce que Dieu lui a demandé, dans ses lois, dans ses ordonnances, dans ses prescriptions. Abraham aimait Dieu. Puis Abraham crut à Dieu. Puis cela, qu'est-ce que ça lui a donné? Ça lui fut imputé à justice. Ça lui a été donné d'être déclaré juste. Pourquoi qu'on a ça par écrit dans la parole de Dieu? La même chose que le personnage de Noé. Genèse 6, 9. Voici la postérité de Noé. Noé est un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence à Noé? C'était le seul qui était épargné sur toute la terre. Tout le monde, ils ont péri par le déluge. Noé et ses enfants, ils marchaient avec Dieu. Dieu, il aimait ça. Ça nous dit dans ces passages-là, toute la terre avait corrompu sa voix. Tandis que lui, Noé, c'était un homme intègre. Un homme juste. Un homme qui aimait Dieu, qui marchait avec Dieu. Ça fait plaisir à Dieu. Dieu, dans ces passages-là, veut nous montrer que son plan, dans son plan, le premier plan, avant même de créer l'humanité, Dieu savait que les hommes tomberaient dans le péché. Dieu savait d'avance qu'il y aurait des gens qui aimeraient Dieu sans le voir. Des gens que sans voir Dieu de leurs yeux, pareil comme nous, il y en a-tu un qui a vu Dieu de ses yeux ici? Non. Mais des gens sans voir Dieu, sans avoir eu de Bible dans les mains pour connaître des révélations de Dieu, ils ont cru en quelque chose qui ne se voyait pas, puis qui ne s'était jamais entendu. Enoch a commencé à prier, puis à invoquer le nom de Dieu, c'est 500-600 ans après, qui a été chassé du paradis, il n'a jamais vu Dieu, il n'a juste entendu vaguement parler de son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père qui s'appelait Adam. Il a juste entendu parler qu'il y avait un Dieu quelque part qui avait créé tout ça. puis qui ont tout perdu ce que Dieu les avait préparé, le jardin d'Éden, puis que là, ils étaient dans la misère, pas rien de la petite misère, de la grosse misère noire, de cultiver le sol, où ce qui produisait des épines et des ronces, puis il n'y avait pas de tracteur puis de machinerie comme aujourd'hui pour défricher, c'était la vraie misère. Puis que les femmes qui étaient enfantées avec douleur, il n'y avait pas de soins d'hôpital à deux pas, puis qui s'en allaient en ambulance en deux minutes, puis qu'il y avait tous les soins, puis les sérums, puis tout. C'était la vraie misère. Puis ces gens-là, malgré qu'ils souffraient dans leur vie, qui était la continuité du jugement d'Adam et Ève, il y a une lueur de foi, d'étincelle, de commencer à croire qu'il y aurait peut-être quelque chose dans l'invisible, puis qu'ils ont dit, « Seigneur, t'es-tu là? » Puis là, ils ont commencé à le prier, « Seigneur, je veux l'avoir, ce contact-là avec toi. Je crois en toi, même si personne autour de moi croit. Moi, je le crois que t'es là. » Puis je commence à invoquer le Seigneur, puis à lui parler, puis peut-être à le louer, puis à le remercier. Puis là, tu vois qu'Abraham, il avait la foi que Dieu était là, même s'il n'y avait pas de Bible qui expliquait comment marcher par la foi. Il avait la foi, puis il entendait ce que Dieu y disait, puis il a répondu à l'appel de Dieu, puis il a parti par la foi en faisant confiance à Dieu. Il a tout abandonné son confort, puis il est parti pour un lieu où ce que Dieu t'a pour donner ce lieu en héritage à sa descendance. Puis là, si on lit son histoire, on va voir qu'il y a plein d'événements qui ont manifesté sa foi dans ce Dieu invisible-là. Dieu, dans toute l'histoire après ça, quand il a envoyé Moïse, puis fait des miracles incroyables, là, quand il était dans l'Égypte, puis que le peuple était esclave en Égypte, puis il faisait de la bouette, puis il se faisait maltraiter, les enfants se faisaient mettre à mort, Moïse arrive rempli du Saint-Esprit, puis avec la pensée de Dieu, puis la parole de Dieu. Il y avait foi en Dieu, Moïse. Il est envoyé par Dieu, puis il part par la foi. Puis là, Dieu, il a dit, fais ça devant le Pharaon. Fait que là, il y a eu les 10 plaies d'Égypte. Dieu a manifesté sa puissance par des grands signes et des prodiges que peut-être personne d'autre n'avait vu avant. Pourquoi Dieu faisait ça, pensez-vous? Il dit dans ces textes-là, si on y relève tous les passages, mais c'est pas le but. Dieu voulait manifester sa gloire et montrer comment ce qui est grand et tout puissant et que Dieu est là, puis que Dieu veut faire les choses selon sa volonté. Dans Exode 4:5, Dieu est en train de parler à Moïse. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras. Là, il venait d'y expliquer quoi faire. Afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu a manifesté sa puissance, ses miracles, ses signes et ses prodiges, afin que les gens croient. Dieu n'a pas voulu laisser les gens dans la noirceur. Dieu a voulu que les gens savent qu'il y a un Dieu là. Puis il s'est manifesté puissamment pour que les gens, le peuple juif qui était après en esclavage, il attendait un Messie, un libérateur. Puis quand Moïse est arrivé avec l'onction de Dieu, avec c'était le temps de Dieu, avec l'ordre de Dieu, vas-y, Moïse est arrivé, puis il a fait ce que Dieu il a dit de faire, il a dit fais ça, fais ça, fais ça. Moïse l'a fait, puis la puissance de Dieu s'est manifestée. Si vous vous rappelez pas, c'est quoi les 10 plaies d'Égypte? Allez lire ce récit, ça vaut la peine. Ça vaut la joie d'aller le lire. Faut pas dire la peine. Dieu manifestait ces signes-là pour démontrer qu'il y en avait un Dieu qui existe, puis ce Dieu-là parlait. Il voulait stimuler la foi dans le cœur des gens pour dire, « Hey, il est là, il s'est manifesté. » Il voulait que les gens mettent leur foi dans ce Dieu-là. C'est ça qui est le but pourquoi Dieu se manifeste. Il veut que les gens mettent leur foi. Dès l'Ancien Testament, dans le temps là, de l'Alliance ancienne, là, avec Moïse puis tout ça, Dieu a confirmé que le salut était pour ceux qui marchent par la foi. Habacuc. Mais le juste vivra par sa foi. Dieu a établi ce système-là depuis Enoch. On le voit dans Abraham, on le voit dans Moïse, on le voit dans Noé, on le voit dans plein d'hommes de Dieu qui ont marché dans la foi, puis que Dieu les a sauvés parce qu'ils marchaient par la foi. Même si la loi est introduite 400 ans plus tard, Dieu n'a jamais changé son plan était de sauver les gens par la foi. Habacuc l'a confirmé que les gens étaient pour être sauvés par la foi. La loi de Moïse, elle disait, celui qui va mettre tout ça en pratique vivra par elle. Mais il n'y a pas une seule personne sur la terre qui a été capable de tout pratiquer la loi de Moïse sans péché, sauf Jésus. Mais l'ensemble de toute l'humanité ont toutes désobéi à Dieu. Personne ne pouvait gagner leur ciel. Puis la loi, la première loi était de sauver tout le monde qui marche par la foi. Puis c'est ça qu'il faut apprendre, frères et sœurs, aujourd'hui. On est sauvés par la foi. Dans le Nouveau Testament, Dieu a encore créé une alliance par le sang de Jésus. C'est une alliance qu'on saisit par la foi. Romains 3:30. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Fait que pour faire une différence, pourquoi que Dieu parle de circoncis et d'incirconcis? C'est parce que les Juifs, quand ils voulaient suivre la loi, ils se faisaient circoncis. C'est un signe de l'alliance pour démontrer qu'ils mettaient leur foi dans la, qu'ils mettaient leur vie comme à vouloir obéir à la loi, mais ils se faisaient circoncis. Puis tous les peuples alentour, les peuples païens, ils se faisaient pas circoncis. Mais dans ce texte-là, c'est en train de nous dire, peu importe que tu aies été circoncis ou incirconcis, ça compte pas devant Dieu. Dieu a décidé de justifier, quand on parle de justifier, là, c'est de déclarer juste. Quand il regarde une personne, il dit, tiens, toi, t'es un juste. Il regarde un autre, toi, t'es un juste. Il va le dire, ça, toi, t'es un juste, si la personne marche par la foi. Dieu a décidé de sauver les gens par la foi. Fait qu'il a fait une alliance, puis qu'il a décidé de rendre juste toutes les personnes qui marchent par la foi. Puis il y en a une qui ne marche pas par la foi, bien lui, qu'il soit juif, qu'il soit pas juif, qu'il soit circoncis ou pas, s'il n'a pas la foi, il n'est pas justifié devant Dieu. Il est condamné par toutes les désobéissances qu'il a faites. Mais si on a désobéi, mais on met notre foi dans son plan, qui est le plan de salut, il nous justifie, il nous rend juste, même si on a fait des fautes. Parce qu'il a décidé de sauver le monde par la foi. Gloire à Dieu. Dans Galates 3:26, si nous marchons par la foi, cela nous donne de devenir un enfant de Dieu. Pas parce qu'on aura pratiqué la loi. Non, on devient enfant de Dieu par la foi. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. À cause, vous avez décidé de mettre votre foi en Jésus, que Jésus est mort sur la croix pour pardonner vos péchés. Dieu, il t'appelle, t'es mon enfant. Puis maintenant, je te donne la justice, je te déclare juste. Pas parce que tu as tout pratiqué la loi, parce que tu marches par la foi. Dieu sauve ceux qui marchent par la foi, mais pas la foi en n'importe quoi. Ah, là, il y a un petit hic. Parce qu'on vient de livres qu'on entend, des livres de foi, des livres de religion. Les gens ont bien confiance, ils ont la foi que les religions sauvent. Mais Dieu ne sauve... J'allais voir dans les versets qu'on va voir, il y a un plan bien précis dans quoi que tu dois mettre ta foi. Pas dans n'importe quoi. Dans ce que Dieu nous a donné, parce que c'est Dieu qui déclare une personne juste ou une personne injuste. Fait qu'on va regarder quelques critères de Dieu. Acte 26-18. Là, c'est le passage que Paul, il a été appelé dans le ministère. Puis Dieu lui a dit, c'est Jésus qui parle, afin que tu leur ouvres les yeux. Paul, il a été envoyé. Jésus est en train de dire à Paul, là je t'envoie parmi les nations, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Là, on voit que le sujet de notre foi, ça se précise. C'est pas le fait de dire « je marche dans des paroles positives » que je vais être positif, que là je vais être sauvé. C'est pas parce que je marche dans une religion que je vais être sauvé. C'est pas parce que je me convainc « je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé ». Là, tu penses que tu as une parole positive dans ta tête, que tu vas gagner ton ciel par ça. C'est pas ça. Jésus a envoyé Paul, puis il a dit « annonce-leur ce que je te dis là ». Ça va lui ouvrir les yeux, puis tout le monde va voir clair. Puis ils vont pas voir clair, ils vont changer de vie, ils vont changer de royaume. Ils étaient tous dans l'esclavage de Satan, puis là je vais les prendre, puis je vais les emmener dans mon royaume. Ils vont passer de la puissance de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière. Comment? Par la foi en moi. Qui ça qui dit ça, là, que moi? C'est Jésus qui est en train de parler, le grand Yeshua. Par la foi en moi. Qu'est-ce qu'on va obtenir par la foi en lui? Le pardon des péchés, puis l'héritage avec les sanctifiés. C'est quoi l'héritage? La vie éternelle. Fait partie de ceux qui vivent dans le ciel avec Dieu pour l'éternité. Puis toutes les autres promesses qui font partie de l'héritage. La Bible est pleine de promesses. Fait que, si tu mets ta foi en Jésus, puis que tu crois que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, si tu crois qu'il est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, puis qu'il est ressuscité pour te présenter son sang à son Père, puis tu crois que c'est pour toi qu'il a présenté ce sang-là, pour te purifier de tes péchés, mais si tu mets ta foi en Jésus, il va te pardonner tes péchés, puis il va te purifier, puis il va te donner de sortir des ténèbres, il va t'amener à la lumière, il va te sortir du royaume de Satan, il va t'amener à Dieu, dans son royaume à lui, puis il va te donner toutes ses promesses, ses bénédictions. La seule condition est la foi en Jésus. Un autre passage dans Galates 2:16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Voyez-vous, les Juifs avaient ce dilemme-là. Ils avaient reçu la loi par Moïse. Puis ça disait dans la loi, si vous pratiquez la loi de Moïse, il y avait 613 préceptes, 613 principes de loi à pratiquer. N'en oubliez pas un seul, parce que vous êtes pécheurs. Vous êtes perdus. Si tu pèches contre un seul commandement, tu deviens coupable de tous. Fait que les 613 préceptes de la loi étaient là. Les Juifs pensaient d'être sauvés en pratiquant tout cela. Puis Paul a dit, non, ça ne marche pas de même. Paul il dit, même nous autres en tant que... Lui est un Juif, Paul. Même nous, ça dit, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ. Puis là, il dit plus bas, personne ne va pouvoir être sauvé en pratiquant la loi. Fait qu'il faut oublier ça, l'idée de performer pour gagner notre ciel. C'est pas de Dieu. Tu performes dans ta vie pour t'améliorer, pour porter du fruit pour Dieu, ça oui. Pour montrer à Dieu que tu l'aimes, ça oui. Mais ça te sauve pas, parce que ton salut vient quand tu t'engages à accepter Jésus, puis tu reçois le Saint-Esprit, t'es né de nouveau. Le salut commence là. Non, c'est pas le baptême d'eau, c'est la réception de la nouvelle naissance qu'on peut voir, puis entrer dans le royaume. Le baptême, c'est spirituel. Quand tu te fais baptiser dans l'eau, tu démontres ce qui s'est passé spirituellement dans ta vie. Fait que le baptême d'eau ne sauve pas, puisqu'il y a des gens dans la Bible qui ont voué le témoignage qu'ils ont été sauvés sans avoir été baptisés d'eau. Nommez-moi-en un. Oui, mais ils peuvent dire qu'il s'est fait baptiser après. Un qui n'a pas eu la chance de se faire baptiser et qui a été sauvé. Ouais. Un qui a des deux larrons qui est à sa croix. Yes. Il n'a pas eu le temps d'être baptisé, lui. Il est mort là, sa croix.
Il est parti avec le Seigneur.
Mais Jésus, il a dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il a juste mis sa foi que Jésus était le sauveur. Il s'est repenti parce que lui-ci, il parlait contre Jésus. Là, ça dit qu'il est dans un évangile qui a fini par réaliser et commencer à défendre Jésus. Il a réalisé. C'est ça qu'il salue. Quand tu réalises, puis que tu t'engages. Puis je suis sûr que ce gars-là, s'il aurait débarqué de la croix, il aurait commencé à suivre Jésus, parce que Jésus a vu en lui la foi qui sauve. Parce qu'il y en a qui ont de la foi en Jésus, puis ça les sauvera pas. Il y a des gens qui marchent par la foi en Jésus, savent que Jésus est là, mais ils obéissent pas. Le démon aussi croit que Dieu est là, mais c'est pas suffisant de croire. Faut que tu t'engages. Faut que tu t'acceptes Jésus comme ton sauveur. C'est beau, c'est bien, mais faut que tu l'acceptes aussi comme ton Seigneur. Quand il devient ton Seigneur, il règne sur toi. T'acceptes d'obéir. Ton chemin, ton désir, c'est marcher pour plaire à Dieu, puis t'arranger d'être fidèle. Parce que tu peux le dire, oui, je le crois, puis avoir une vie qui est de débauché, d'incrédule, t'as une vie où il est pareil comme les autres. Mais quand tu te repens, là, tu le regrettes. Tu dis, là, je suis tanné de vivre dans cette vie-là, je réalise que je suis pécheur, je le sais que je suis perdu à cause de ces péchés-là. Puis, Seigneur, donne-moi une chance de changer. Je le crois que tu es mort sur la croix exprès pour me pardonner. Je l'accepte, ta chance que tu me donnes de m'engager à te suivre. Là, je vais marcher dans tes voies. Quand tu c'est ça la repentance. Tu décides d'arrêter de vivre comme ça, puis tu décides de vouloir être comme ça. Être un disciple de Jésus. C'est là que ça commence. Puis là, tu commences à obéir. Le premier pas d'obéissance, c'est de le confesser de ta bouche que tu crois que Jésus est mort sur la croix, puis que tu le crois dans ton cœur, ça te pardonne. Après ça, tu vas comment tu fais d'autres pas dans la foi chrétienne. Tu vas te faire baptiser d'eau, tu vas te joindre à une église. Puis on va voir quelques passages dans ce sens-là après. Ce que je veux en venir, c'est qu'une fois que tu dis que tu as accepté Jésus, là, que tu crois que Jésus est mort, puis là, tu t'es repenti, là, on est rendu là, là, en tant que chrétien. On l'a fait, ce pas-là. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous encourage à le faire, de donner votre vie au Seigneur, puis de l'accepter. Puis ceux qui l'ont déjà accepté, maintenant, quand tu dis que tu marches par la foi, c'est là que les points qui sont bien le fun. Première chose qui va se passer, tes pensées là, vont commencer à changer. Premier, suite en partant. Là, tu vas avoir les pensées sur le vrai Dieu et sur la parole. Tu ne peux pas dire, je marche par la foi, puis je veux rien savoir de penser à ce que Dieu pense. Ça se peut pas. Tu t'es repenti de ce que tu étais avant. Tu dis, je le regrette, je suis tanné d'être comme ça, puis Seigneur, je veux te suivre. Mais là, première chose, je veux savoir ce que tu as à me dire. Mes pensées, il faut qu'ils commencent à être des pensées qui marchent par la foi. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Dans Hébreux 11, 3. Regardez bien ce passage-là. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte, ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La première chose, là, tu commences à réaliser, là, hey, je le vois, là, que c'est tout ce qui est matériel, ça n'a pas été fait par quelqu'un de matériel, ça a été fait par quelqu'un d'invisible. C'est par la foi que tu commences à penser de même. Il y a un Dieu qui est là, qui a créé tout ça, là. Mais là, ça commence à changer quand tu admets ça. Tout ce qu'on voit présentement, c'était créé par un Dieu qui est invisible. Quand tu commences à admettre ça, tu es en train de penser selon la foi. Deuxième passage. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu cherche des gens qui marchent par la foi. Mais sans cette foi-là, c'est impossible. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu t'approches de Jésus, là, faut que tu croies que Dieu existe. Tu peux pas accepter Jésus si tu crois pas que Jésus existe. Tu peux pas accepter Jésus si tu crois pas que Dieu existe. Parce que Jésus est Dieu. Il faut apprendre à marcher par la foi dans ce que Dieu a déclaré dans sa parole. On va prier. Alléluia. Mets ta main, Seigneur. Père, Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus que je te prie pour que tu mettes une guérison complète dans son corps, Seigneur. Tu donnes un complet rétablissement. Manifeste ta gloire, ta puissance dans sa vie, Seigneur. Et qu'au nom de Jésus, que la guérison s'installe dans son corps. Maintenant, on te le réclame. Merci, Seigneur, de ce que tu es en train de faire dans sa vie pour lui donner un complet rétablissement. Afin que ton nom soit élevé et glorifié, Seigneur, sur cette terre. On leur met entre tes mains, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour ceux qui disent qu'ils veulent apprendre à marcher par la foi, il y a une source que notre foi provient. Qu'est-ce qui est la seule chose visible qu'on voit, pas la seule chose, mais une des choses principales que nous pouvons voir qui va nous amener à comprendre qu'est-ce que la foi et de marcher par la foi? Quelle est la seule chose visible qui est là devant nos yeux qui va nous augmenter notre foi? Pas l'Église. La Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible a été écrite par des gens qui ont vécu plein d'expériences avec Dieu. Puis tout ce qui a été écrit dans la parole de Dieu, ça l'a dans le but de stimuler notre foi. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous voulez augmenter votre foi, vous voulez que vos pensées changent puis que ça devienne des pensées de foi, mais commencez à lire la Bible. Nous ne pouvons pas grandir spirituellement et grandir dans la foi sans lire la Bible, sans étudier la Bible, sans méditer la Bible. La parole de Dieu est une nourriture pour notre foi et nous permet de grandir. Nous devons apprendre à puiser dans la parole de Dieu tous les jours afin que nos pensées changent. En premier, là, nous sommes tous programmés à penser rien que de la façon terrestre. On a mal, on prend une pilule. Ça, c'est la façon terrestre de réagir. C'est quoi la façon spirituelle ou la façon biblique de réagir? T'as mal, tu vas faire une prière. Tu vas demander à Dieu. Pourquoi que j'oserais demander à un Dieu que je ne vois pas? Je ne le vois pas, Dieu. Personne ne l'a vu. Pourquoi que je demanderais à Dieu que je ne vois pas de guérir un problème que j'ai? Parce que Dieu l'a montré dans sa parole qu'il l'a déjà fait à plusieurs reprises de guérir des personnes qui étaient malades. Fait que là, c'est dans le but. Puis il y a aussi, en plus, il a fait des promesses que si on prie, il va manifester sa puissance, puis il va guérir. C'est dans la Bible, la parole de Dieu a été donnée dans le but d'augmenter ma foi. Et tiens, on amène à cela.
Amen.
La parole de Dieu a été donnée pour augmenter ma foi. Avec l'ensemble d'exemples qu'on a dans la Bible, l'ensemble des promesses, si on se nourrit de la parole de Dieu, on va se fortifier dans le Seigneur. Puis on va venir avec des pensées de foi. Puis on va être capable de réagir par la foi si on est auparavant rempli des pensées de foi. Si je lis la Bible, puis je veux pas la retenir par cœur, puis je veux l'oublier pour continuer à garder mon cerveau à penser qu'aux choses terrestres, Je vais arriver dans la situation, puis je vais réagir de façon terrestre, parce que mon cerveau n'a pas été changé. J'ai pas reprogrammé mon cerveau à penser comme Dieu veut que je pense. C'est pour ça qu'il nous dit, soyez renouvelés dans votre intelligence pour connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Là, je vous dis qu'il faut apprendre, si on doit marcher par la foi en tant que chrétien, on doit apprendre à changer nos pensées pour que nos pensées deviennent des pensées de foi. Deuxièmement, il faut commencer à parler avec foi. Dieu s'attend à ce qu'on parle avec des phrases qui sortent de ce qu'on a pensé par la foi, ce qu'on a compris par la foi, ce qu'on médite par la foi. On commence à prononcer les paroles de foi qui vont changer des choses. Dans Marc 11, 22, qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Jésus qui parle, c'est pas n'importe qui, moi je crois que Jésus, il a raison. Jésus prit la parole puis leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit prononcer une parole de foi, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus dit, ayez foi. La foi, c'est pas naturel. C'est quelque chose qui commence, tu as la foi en Jésus qui te sauve. Mais après ça, en te nourrissant de la Bible, tes pensées changent. Là, il y a plein de promesses que tu veux t'accrocher dans tes pensées. Il y aurait des situations, au lieu de regarder la situation puis être énervé, on s'accroche à une promesse de la Bible, puis on la prononce, cette promesse-là. On commence à dire les choses. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, faut que tu prononces ta foi. Faut que tu dises les versets sur lesquels tu t'appuies avec dans ton cœur, une pleine conviction, une pleine assurance que c'est vrai que c'était en train de dire. Si tu doutes, tu ne marches pas encore dans la foi. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas de place pour le doute. C'est pas de Dieu le doute. Dieu va, il veut dissiper tout doute. Il veut manifester sa puissance, mais il veut que vous ayez foi en Dieu en premier. Après ça, vous allez être capable de prononcer des choses, puis que les choses vont s'accomplir, parce que c'est Jésus qui l'a promis. Il nous dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez, vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Tu sais que Dieu a entendu ta prière, parce que tu l'as demandé, puis tu sais qu'elle s'en vient ton exaucement. Puis tu vas le dire, ça s'en vient, Dieu il a ça entre ses mains, puis Dieu va le faire. On l'a tué, puis c'est là qu'il faut grandir dans la foi. Matthieu 17, Jésus qui est encore en train de parler. C'est à cause, là il arrive dans une situation, puis c'est un démon qui est là, dans un enfant, puis il shake, puis il se manifeste. Là Jésus dit que depuis quand que ça arrive, depuis sa naissance. Les disciples venaient de voir là, Jésus qui était transfiguré sur la montagne, qui était changé de son visage comme le soleil. Là, Jésus, il arrive auprès des disciples qui n'ont pas été capables de chasser l'esprit. Jésus leur répond, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Les disciples ont demandé, comment se fait qu'il n'a pas sorti cet esprit-là? Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Jésus leur dit, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, puis elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Si vous auriez la foi, vous diriez encore. Mais là, ce démon-là, il n'avait pas sorti, puis Jésus lui remet un autre verset que j'aurais pu écrire, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Si vous auriez la foi, vous auriez dit, puis vous auriez été aussi en prière et en jeûne, faire sortir cet esprit-là, puis il aurait sorti. Si les gens relâchent après avoir juste pensé, peut-être je pourrais faire une prière pour qu'ils soient guéris ou délivrés, puis là, on a des doutes déjà dans notre pensée, ça donne à rien. Mais si tu crois que Dieu est capable de le faire, puis Dieu veut le faire, tu vas prendre autorité dans le nom de Jésus, puis tu vas chasser l'esprit, puis s'ils sont pas là, tu vas te mettre à prier, puis à jeûner jusqu'à temps qu'il est sorti, tu lâcheras pas le morceau, parce que tu veux y aller par la foi, puis te persévérer jusqu'à temps que ça arrive. Puis si ça prend 6 mois de jeûne et prière, ça prendra 6 mois. Pourquoi que les gens voient peu d'exaucement? C'est parce qu'ils arrêtent de prier. Ils la demandent une fois, peut-être deux pour les toffes. Puis après ça, mais on ne voit pas rien, on baisse les bras. Dieu ne voulait pas le guérir, ce n'était pas son plan. Voyons, c'est pas là le problème. Le problème, c'est notre incrédulité. C'est ça que Jésus dit. Parce que si vous auriez la foi, vous pourriez le commander à cette montagne-là, ôte-toi de là, puis jette-toi dans la mer, puis la montagne bougerait. Mais ça prend une foi sans doute, une foi inébranlable. L'autre passage, dans Luc 17, Jésus est encore en train de parler. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi, ô Seigneur, ça sera le fun d'avoir de la foi, avoir une grosse foi, augmente-nous la foi. » Qu'est-ce que Jésus a fait pour augmenter leur foi? Il leur a juste dit une promesse. Il n'a pas fait « je vais t'imposer les mains pour augmenter ta foi ». La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu demandes à Jésus « augmente ma foi ». Mais il va dire « écoute-moi ce que j'ai à te dire ». Puis ce que j'ai à te dire, là, mais c'est la parole de Dieu. Puis là, ça, mets ta foi, mets dans ta tête ce que je te dis, là, parce que ça va augmenter ta foi. Parce que notre foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend est de la parole de Jésus. Il dit, ils ont dit, augmente-nous-la. Jésus lui donne une promesse. Qu'il prend cette promesse-là, là, puis ça, c'est assez pour augmenter ta foi. C'est à quoi sa promesse? Puis le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, à cet arbre-là, là, déracine-toi, plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. On veut-tu grandir dans la foi? Moi, je pense que c'est « Amen ». Oui, on va apprendre à grandir. Puis, « Seigneur, augmente-nous la foi », il va dire « Lis ma Bible ». Lis la Bible. Lis la parole de Dieu, ta foi va augmenter. Néglige-la, tu n'auras pas de foi pour marcher dans la foi. Tu vas penser que tu marches dans la foi, mais tu marches dans l'incrédulité bien plus que dans la foi. On pense qu'on a accepté Jésus, puis que c'est tout. Non, il y a bien plus que ça que Dieu veut faire à travers de nous. Il veut manifester sa gloire et sa puissance dans ce monde à travers des disciples. Il a dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui va venir sur vous. Vous allez être des témoins. On a besoin de cette puissance-là pour être un vrai témoin des gens qui marchent par la foi. Puis l'Esprit de Dieu avec la parole de Dieu, ça fait quoi? Ça additionne 1 plus 1 égale miracle de Dieu. Un chrétien qui a la foi, quand ça va mal, il va dire, Dieu va pourvoir. Un chrétien qui a la foi, il va dire, si Dieu le veut, nous ferons cela. Parce qu'il sait que sa vie, c'est Dieu qui mène sa vie. Il ne marche pas. Checkez bien ça, moi, dans mes capacités, j'ai décidé, je vais faire ça. Non, non. Si tu as la foi, tu apprends à faire confiance que Dieu va t'ouvrir les portes pour les choses. Puis Dieu peut tout t'ouvrir, comme qu'il peut t'enfermer, pour te diriger dans son plan à lui. Un chrétien qui a la foi, il va dire, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il va être capable de prendre cette promesse-là et dire, « Là, je marche par la foi. » Puis, j'ai tout remis dans les mains de Dieu. Puis là, Dieu me donne aussi la force de faire ce que j'ai à faire dans ce qu'il me demande. Un chrétien va aussi confesser sa position en Jésus puis prendre l'autorité contre l'ennemi. Un chrétien, il va prier pour les malades. Un chrétien qui marche par la foi, il sera pas gêné de prier pour les malades parce qu'il sait que son Dieu est capable de guérir les malades. Un chrétien qui marche par la foi, il va confesser les promesses de Dieu. Il les connaît dans sa tête, mais il va les dire. Il dit, celui qui dit, vous diriez à cette montagne, il faut dire les choses, il faut les confesser de notre bouche. Regardez ce que Dieu va faire, il y a telle et telle promesse, puis Dieu va le faire. Un chrétien qui a de la foi, il va témoigner de sa foi, il va dire, je le crois que Jésus m'a sauvé, je le crois que la Bible est vraie, je le crois que sa parole est vraie, puis il va confesser aussi, je le crois que Jésus va revenir. C'est de marcher par la foi de confesser que Jésus va revenir. On dit quelque chose qu'on n'a jamais vu de nos yeux. Non seulement j'ai pas vu Jésus qui est venu il y a 2000 ans, mais je confesse de quoi? Je crois qu'il est venu, puis je crois même qu'il est monté, puis qu'il est ressuscité, puis je crois qu'il va revenir. Confesser les choses qu'on croit. Dieu veut qu'on confesse. Le dernier bout que je vais vous parler, à part là les deux premiers points, c'est faut que tu penses par la foi, faut que tu augmentes ta foi dans tes pensées en lisant la Bible. Le deuxième, faut que tu confesses ta foi pour voir les choses arriver. Le troisième, marcher par la foi, c'est agir par la foi. Quand il y a des choses à faire, faut que tu marches, faut que tu... Comment vous le dire? Parce que c'est facile de tout faire par routine. D'une manière religieuse. Ou de faire les choses pour être vu. Parce que tu peux être chrétien, là, puis ta vie n'est qu'une routine. Tu vas à l'église juste par routine. Tu dis ta prière au repas juste par routine. Puis tu te promènes sur la rue, puis tu vis ta routine. Manger, aller travailler, puis tout ça. Puis on ne vit pas. Ou une vie religieuse, faire des bonnes actions dans le but de que ça soit encore par routine, de faire des choses religieuses pour accomplir de quoi pour plaire à Dieu. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut des gens qui marchent par la foi, quand ils font les choses, sont vraiment conscients en train de faire les choses parce qu'ils veulent servir le Dieu qui croit. Si quelqu'un, c'est par la foi que quelqu'un répond à l'appel puis accepte Jésus comme son sauveur. Déjà, la foi commence là. Tu acceptes Jésus, tu fais la prière de repentance, puis tu t'acceptes qu'il vienne habiter dans ta vie, tu fais une prière demander le Saint-Esprit, c'est par la foi que tu vas le faire. C'est par la foi que tu vas lire la Bible. Quand tu vas lire la Bible, c'est par la foi que tu t'approches de la Bible, sachant que quand tu lis la Bible, ça nourrit ta foi. Sinon, pour toi, si tu n'y crois pas, là, quand la Bible change ta vie, tu ne la lis pas. Mais c'est par la foi que tu vas commencer à lire la Bible. C'est par la foi que tu vas te mettre à prier. Quand tu as des agissements qu'on doit faire en tant que chrétien, pas par routine, c'est parce que tu as la foi que tu vas prier, que tu vas demander à Dieu d'intervenir dans telle et telle situation. C'est par la foi que tu vas même demander des prières à d'autres frères et sœurs, sachant que deux ou trois qui sont assemblés pour demander la même chose, que Dieu va l'exaucer. C'est par la foi qu'on s'unit avec les autres pour prier. C'est par la foi qu'on va à l'église. Quand on va à l'église, c'est pas par une routine, c'est parce que je le sais par la foi que je m'en viens rencontrer Dieu, puis le temps que je vais avoir à louanger Dieu, Dieu va me remplir de son Saint-Esprit, puis c'est là, au milieu de la louange, que Dieu va manifester ses guérisons, ses délivrances, qu'il va manifester sa puissance. C'est aussi par la foi que je vais à l'église pour entendre les messages qui sont enseignés, pour que ma foi augmente, pour que je comprenne l'ensemble de la pensée de Dieu, puis que ça m'aide à avancer. C'est par la foi qu'on doit aller à l'église. C'est par la foi aussi qu'on va évangéliser. Parce qu'on le sait que si je rouvre la bouche, puis je parle de Jésus à quelqu'un, puis cette personne-là, elle se met à croire, je sais par la foi que si elle se met à croire au Jésus que j'y annonce, elle va accepter, puis elle va être sauvée elle aussi, il va recevoir le Saint-Esprit, puis qu'il va marcher à devenir un disciple de Jésus, puis lui aussi va marcher par la foi, puis il va travailler à essayer d'en sauver d'autres. C'est par la foi qu'on va évangéliser. C'est par la foi aussi qu'on sanctifie. Parce qu'on le sait que Dieu veut pas qu'on reste comme qu'on était avant. Fait qu'il veut changer notre vie. On écoute les enseignements qui sont dits à l'Église. On se met à lire la Bible, comprendre tout ce qu'il y a dans la Bible, pour qu'on ajuste notre vie face à ce qu'il nous demande. Fait que c'est par la foi Je marche par la foi quand je me sanctifie, quand je me mets à part, quand je me consacre au Seigneur, quand je prie à Dieu de me guérir, c'est beau, c'est correct, mais quand je prie à Dieu de changer ma vie pour enlever ces péchés-là dans ma vie, c'est par la foi qu'on le demande. C'est par la foi qu'on va travailler, sachant qu'on est des serviteurs de Dieu partout où on va. On est au travail, on est un témoignage. Par la foi qu'on fait les choses et non pour la paye qu'on a à la fin de la semaine. C'est par la foi qu'on s'implique dans l'œuvre de Dieu, qu'on avoue que dans l'Église, il y a des ministères qui sont là, il y a des services qu'on peut faire, de rendre des services dans l'œuvre de Dieu. C'est par la foi qu'on s'engage à servir Dieu. C'est par la foi qu'on se met à bénir nos ennemis. Ça peut arriver qu'on a des ennemis, on n'en veut pas d'ennemis, mais s'il y en a, le Seigneur nous dit, prie pour eux, puis bénis-les. C'est par la foi que tu vas le faire, parce que tu sais que Dieu va déposer une touche de bénédiction sur sa vie va être affectée, sa vie va changer parce que tu as prié pour lui puis tu l'as béni. C'est par la foi qu'on attend puis qu'on se prépare pour le retour du Seigneur. Parce que c'est quelque chose qu'on croit que Jésus revient bientôt, puis on le sait qu'il n'y a pas grand temps encore devant nous, puis on le sait que Jésus, lorsqu'il va être revenu, il va être trop tard pour les autres. Il faut que les gens acceptent, c'est par la foi qu'on se prépare à se préparer, à rester bouillant pour le Seigneur, puis à prier pour avoir la force de passer à travers les moments difficiles. C'est par la foi qu'on se prépare à passer des choses bien plus pires que ce qu'on vit là, tant que les étoiles vont tomber du ciel, puis qu'il va y avoir le soleil ne donnera plus sa clarté. Ça va être des cataclysmes comme qui ne s'est jamais vu sur la terre avant son retour. Puis ça va être laid. Puis si on n'apprend pas à marcher par la foi aujourd'hui, on n'aura pas la foi pour passer à travers. Il faut se nourrir et se fortifier en le Seigneur pour attendre le retour puis se préparer pour son retour. Il faut avoir les lois de Dieu ancrées dans notre cœur, les principes de Dieu, le mode de vie de Dieu selon la nouvelle alliance que Dieu a faite. Dieu aime des choses puis Dieu il aime pas certaines choses, mais c'est par la foi que je vais m'ancrer, m'enraciner dans la parole puis je vais désirer devenir comme un vrai disciple, devenir comme Jésus. C'est par la foi que je donne des paroles d'encouragement aux frères et sœurs. C'est dans la confiance en Dieu, devant les obstacles, puis qu'on persévère malgré les difficultés, c'est là qu'on démontre qu'on a la foi. Avons-nous confiance en Dieu dans toutes circonstances, dans tout obstacle, dans toute difficulté? Ben, c'est pas à cause que la réponse à notre prière n'est pas arrivée instantanément que Dieu ne voulait pas la faire. Mais quand on voit que la personne est encore malade, on a-tu encore de la foi pour s'attendre avec puissance, avec fermeté, je l'ai demandé, puis regardez comment Dieu va agir, puis qu'il va répondre. Puis là, c'est une question de persévérer avec des jeûnes, des prières, puis par la foi, je vais continuer, même si je ne le vois pas encore, l'exaucement de mes yeux. Tiens, amen à cela.
Amen.
Hébreux 11. Je ne vous demande pas de tout le lire parce que ça parle des héros de la foi. Il y avait deux catégories. Il y a une catégorie par la foi, ils ont vaincu des royaumes, ils ont exercé la justice, ils ont éteint la puissance du feu. Par la foi, ça marcha, ils ont vu des résurrections, ils ont vu des guérisons, ils ont vu toutes sortes d'affaires. Puis là, tout de suite après, rendu au verset que je vous montre, là, 11:35, par la foi, des femmes recouvrèrent leur mort, bon, puis la résurrection, bon. D'autres, c'est là qu'on rentre dans l'autre dimension de la foi. D'autres, ils furent livrés au tourment, des chrétiens qui ont été livrés au tourment, les persécutions, là. Ils n'acceptèrent point de délivrance. Ils ont décidé de ne pas chercher à être délivrés. Ils ont décidé de passer à travers leurs épreuves par la foi. Afin d'obtenir une meilleure résurrection, parce qu'ils savent que quand ils ont des épreuves, ils se ramassent des récompenses l'autre bord. D'autres subirent des moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ça, on parle des chrétiens persécutés. Il a l'air, ça et là, vêtu de peau de brebis, et parce qu'ils ont perdu leur maison, leur travail, leur vie familiale, des fois, la vie dans la communauté, dans la ville où ils vivaient. Il était devenu errant, vêtu de peau de brebis, de chef, dénué de tout, persécuté, maltraité, eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes, dans les antres de la terre. Là, c'était pas des conquérants, c'était des chrétiens qui subissaient des attaques, mais par la foi. Ils ont passé à travers toutes leurs difficultés, leurs épreuves, puis ils ont gardé la foi en leur Dieu. Ça dit pas que ces gens-là, ils ont reçu les exaucements de prière, ou les guérisons, ou les délivrances. Ils ont vécu leur souffrance par la foi, puis ils l'ont accepté, sachant qu'il y a une meilleure résurrection. Tous ceux-là, de la foi desquels a été rendu témoignage, ils ont entendu le témoignage, ils ont vu la même parole de Dieu que nous, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été délivrés, ils ont passé à travers, puis Dieu a permis que ça arrive, puis Dieu ne les a pas délivrés. Ils n'ont pas obtenu ce qui était promis. C'est là le verset 40 qui est le meilleur. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur. Quand ça arrive que dans une situation, tu as la pensée de Dieu, tu as les promesses de Dieu, tu confesses les choses de Dieu, puis tu t'attends, puis tu jeûnes, puis tu pries, puis tu avances par la foi, puis là tu commandes à des choses, puis les choses ne sont pas accomplies 100% comme tu le pensais, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Au contraire, Dieu peut permettre qu'il y ait des choses qui ne soient pas exaucées dans ta vie, puis des choses que tu as à accepter, à passer à travers par la foi, puis à les vivre. Paul, il était Paul, puis il était en prison, puis il était lapidé, puis il a été rejeté, puis il courait après pour l'assassiner, puis il a vécu des naufrages, puis dans la prison, c'est pas un 15 jours, il aura passé 10 ans de sa vie en prison. Qui est capable de passer par la foi la souffrance de 10 ans de prison, sachant que Dieu t'a pas abandonné, puis il devait se dire... On prie là, soir, puis on sait que Dieu va nous délivrer. Puis si on ne leur souhaite pas la délivrance, parce que Dieu a en cours quelque chose de meilleur pour nous. C'est comme un exemple, la station de radio. C'est la troisième fois qu'on présente le projet pour l'avoir. Puis on prie, puis on demande au Seigneur de nous l'accorder. Dieu a encore fermé la porte. Là, je dois te dire, bon, ben là, que ça s'arrange, on lâche tout. Non, on lâche pas tout. On reste fidèle dans ce qu'il nous a demandé, puis Dieu, il y a encore de quoi de plus grand qui nous attend. De quoi encore de meilleur. Lui, il sait ce qu'il y a de meilleur pour moi. Fait que s'il répond pas une chose, là, telle qu'il l'a promis, c'est parce qu'il y a de quoi de meilleur qui s'en vient. On est-tu capable de l'attendre avec foi, lorsqu'il y a de meilleur qui s'en vient? Oui. Dernier passage. Hébreux 6:12. Dieu veut qu'on imite un certain type de personne. En sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. On a plein d'exemples dans la Bible de gens qui ont vécu des miracles extraordinaires. Juste prendre un mouchoir, les personnes ressuscitaient ou ils étaient guéris. Juste par un mouchoir qui avait touché Paul. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ou son ombre qui passe à Pierre. Les gens t'ont guéri juste par l'ombrage. C'était puissant. Puis c'est arrivé que d'autres ont été sciés, torturés, puis ont été mis à mort. Mais ils ont persévéré par la foi. Mais Dieu veut qu'on apprenne à ne pas relâcher. Relâchez pas. Lâchez pas. Persévérez. Augmentez votre foi dans votre pensée. Confessez des paroles de foi. Lâchez pas, puis imitez ceux qui ont de la foi, puis qui persévèrent. C'est eux qui héritent les promesses. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on est devant toi. Je te remercie pour ta parole qui est vraie. Ben, Seigneur, ça prend de la foi pour comprendre tout ce qui est écrit dans ta parole, pour comprendre cette idée-là, ce message-là, puis de le vivre. Je demande, Seigneur, de commencer une œuvre en nous, faut qu'on apprenne à marcher par la foi. Qu'on apprenne à changer nos pensées puis bosser notre raisonnement face à ta parole. Je te demande de nous donner le goût de lire la parole, pas qu'un goût, une passion, un désir de savoir tes promesses, de les connaître dans notre pensée. Puis qu'on apprenne à s'appuyer sur toi en confessant ces promesses-là. Puis à persévérer dans nos agissements, à faire toutes choses pour démontrer notre foi. Je remets nos ventres entre tes mains, Seigneur, puis je te prie dans le nom de Jésus. Amen. S'il y en a qui sont ici, puis qui n'ont pas encore accepté Jésus, je vous le donne une occasion présentement. Dieu veut que vous fassiez un pas pour vous engagiez à le suivre et à le servir. Dieu veut que vous soyez sauvés. Il veut se mettre ces paroles-là dans votre cœur pour que vous ayez la foi qu'il peut vous sauver. Il veut vous sauver. Il veut vous pardonner tous vos péchés. Il veut vous donner le Saint-Esprit. Il veut faire de vous une nouvelle créature. Mais Dieu ne force pas personne. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Chaque personne est responsable devant Dieu de sa réponse. Puis je vais faire une prière encore. Comme une prière pour s'engager à suivre Jésus. Faites cette prière-là, donnez votre vie au Seigneur, puis engagez-vous à marcher par la foi, suivez-le. Le Dieu Tout-Puissant va venir habiter dans votre vie, dans votre maison, votre vie va commencer à changer, puis vous allez entrer dans le chemin qui vous mène dans la vie éternelle. Père Seigneur, je crois que tu es venu v'là 2000 ans pour mourir sur la croix, pour verser ton sang, pour payer pour la dette des péchés de toute l'humanité. Je crois que tu es mort pour moi, pour que je sois pardonné. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Père, je te demande de me donner ton Saint-Esprit pour que je puisse naître de nouveau et changer de royaume. Que je puisse recevoir cette nouvelle vie et marcher en communion avec toi et être guidé par ton esprit dans tout ce que tu me demanderas. Je t'accepte, je te reçois maintenant dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de ton cadeau de me pardonner de mes péchés et de me donner la vie éternelle. Tiens-moi la main, Seigneur, et conduis-moi dans tes voies jusqu'à la fin de ma vie. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière-là, sachez que Dieu l'a entendu. Il y a une nouvelle vie qui commence. Ça s'appelle naître de nouveau. Puis là, je vous encourage à vous joindre à une église puis à aller écouter les enseignements de semaine en semaine. Ça va nourrir votre foi. Vous allez grandir puis vous allez être utilisé pour la gloire de Dieu.